avant la musique, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un jeu. Si je vous dis Café Charbon, Compagnie chez Bouscat, Trio Violon, plus près de nous, des spectacles mêlant tradition, création, improvisation, lien avec le texte comme avec le trio, la soustraction des fleurs, ou dans la veillée rustique moderne, ou encore des spectacles avec le conteur Abby Patrix. Si je vous dis qu'il est reconnu comme l'un des meilleurs joueur de violon traditionnel de l'Hexagone et qu'il a grandement participé au renouveau des musiques traditionnelles. Il habite dans la région parisienne, mais connaît parfaitement bien notre région et sa culture, et en est depuis plusieurs dizaines d'années maintenant l'un des ambassadeurs. Devinez-vous de qui il s'agit ? Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, de passage dans la région, Jean-François Vorot. Jean-François, bonjour.
Bonjour, José.
Ravi de vous accueillir dans cette émission dédiée aux musiques traditionnelles. Je suis ravi que vous ayez pu trouver une disponibilité dans votre agenda afin de présenter aux auditeurs de cette émission dans laquelle nous traitons de l'actualité des musiques traditionnelles en Auvergne, mais aussi, bien entendu, de temps en temps, je trouve très important de dire deux mots de l'histoire de ces musiques dont vous êtes l'un des acteurs clés. Alors, on va commencer par le début. Jean-François Vorot n'a pas un âge canonique, je vous rassure, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais quand je dis plusieurs dizaines d'années, c'est vrai que maintenant, ça commence à faire. Et comment tout ça a-t-il commencé ?
Tout d'abord, c'est également un plaisir pour moi d'être ici, d'être à Clermont, d'être dans la région. J'ai toujours un plaisir de voir les montagnes et d'être un peu ici. J'en ai un peu moins l'occasion ces dernières années et c'est toujours un grand plaisir pour moi de retraverser cette ville et de retraverser les montagnes dans lesquelles il s'est passé tellement de choses. Ça a commencé loin des montagnes, ça a commencé à Paris, ma ville d'origine. Je suis un pur produit de l'émigration auvergnate à Paris. Pas exactement un pur produit puisque mon papa était breton du centre-Bretagne et ma maman était auvergnate. Comme mes parents ont divorcé, je me suis plutôt rapproché de la culture de ma maman et notamment de la culture de la maman de ma maman qui était originaire de Lanobre. Dans le Cantal. Et donc,
nous voilà dans l'Artense, donc.
Voilà, nous voilà au cœur du sujet. Donc. Voilà, j'ai donc commencé très classiquement par aller écouter des concerts de Steve Hull à Paris, avec ma maman d'ailleurs, au Palais des Sports. Et voilà, à m'intéresser assez rapidement aux musiques traditionnelles, au folk à l'époque.
Mais tu es très jeune, hein ?
Oui, j'avais 15 ans, en fait, j'ai commencé. Et j'ai donc, de fil en aiguille, été dans un folk club à Paris qui s'appelle Le Bourdon, qui est un folk club assez célèbre pour l'époque. J'y ai rencontré John Wright et Catherine Perrier, qui étaient des gens importants pour l'époque, et encore aujourd'hui, bien sûr, même si John nous a quittés. Et voilà, de fil en aiguille, jouant du violon.
Oui, vous aviez appris le violon déjà avant ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs instruments qui étaient pratiqués à l'époque à Paris, notamment dans ce folk club, la vielle, la cornemuse, mais beaucoup de violon. Pourquoi ? Parce que le violon, c'était un instrument facile à trouver. Mmh. On trouvait des violons aux puces pour 150 francs.
Oui, c'est plus facilement qu'une cornemuse ou une vielle. Oui.
Et jouer de la cornemuse ou de la vielle à l'époque, c'était très compliqué parce qu'il y avait peu de facteurs. Mmh. Donc, je vous dis ça, donc, je suis né en 59. Voilà,
Jeune, donc.
Ça correspondait à l'époque où c'était un peu le renouveau de ces musiques. Et donc, on pouvait jouer du violon et on pouvait jouer tout de suite des musiques qui sonnaient assez trades. Mmh. Parce que finalement, on avait quand même quelques pistes d'interprétation des mélodies traditionnelles au violon. Donc, j'ai joué du violon comme tant d'autres, je dirais. Les ateliers de violon au Bourdon étaient ceux qui renfermaient le plus de monde. Voilà, et j'ai joué du violon. Et puis, de fil en aiguille, avec un copain de lycée qui jouait du violon aussi, qui s'appelait Patrick Mona. Nous avons décidé de faire le grand voyage en Auvergne, puisque nous avions compris que quelques violoneux étaient là et qu'ils avaient sans doute des choses à nous dire. Et donc, nous avons fait notre premier voyage avec Patrick Mona et Françoise Marchessault, sa copine de l'époque. Un voyage assez dangereux, puisque nous l'avons fait en triporteur. Un triporteur comme ceux dont servait Nicolas pour livrer le vin. Et on a fait ce voyage en triporteur et on a mis 37h30 pour faire Paris-Saint-Flour. Sur une route assez dangereuse, on ne pouvait pas prendre l'autoroute parce qu'on roulait à 40 à l'heure, 45. C'était une grosse mobilette en fait, quoi, sauf qu'on était trois. Et voilà, on est arrivé ici un peu décalqué. Et voilà, on a commencé à rencontrer les illustres Léon Lemay, Joseph Perrier, voilà, et Gustave Itier, et tous les illustres violoneux dont vous avez sans doute beaucoup parlé ici.
Thank you. Oui, vous avez entendu le son du violon de Jean-François Vraux qui nous a fait l'immense plaisir de jouer en direct à France Bleu Pays d'Auvergne. Jean-François, vous venez là, vous entendez des joueurs de violon, vous en repartez avec l'idée de poursuivre cette aventure ?
C'est assez étrange parce qu'en fait, au début, on ne comprend rien. Enfin, on comprend rien, on comprend pas grand chose à la musique qui est jouée par ces musiciens. Moi, le premier violoneux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est encore avant ça, parce que je travaillais moi au col de Néron, au-dessus du Falgou, à côté de Salers. J'emmenais les gens dans la montagne se promener à cheval. J'étais cavalier à l'époque. Je rencontre donc ce violonaire, Gustave Itier, au Falgou. Je jouais du violon depuis un an, donc la musique qu'il me joue est une musique assez étrange, auquel je ne comprends pas grand-chose. Il nous faut un petit moment avant de comprendre et de digérer cette musique. Encore aujourd'hui, je travaille régulièrement toutes ces musiques, la musique de Joseph Perrier notamment. C'est un apprentissage. Alors, c'est en même temps la découverte d'une musique, d'un répertoire. Évidemment, c'est pour cette raison-là, avant tout, qu'on est là. C'est pour la question du répertoire. On s'aperçoit vite que c'est une mauvaise question.
C'est une fausse piste.
Voilà. Et il va nous falloir un peu de temps pour comprendre le geste technique, pour comprendre les enjeux qui sont derrière tout ça. Et finalement, je dirais que c'est comme toutes les musiques. C'est-à-dire, enfin, moi, je continue à travailler sur ces objets musicaux encore aujourd'hui, en découvrant régulièrement des enjeux, des façons de faire. On peut dire que, finalement, pour moi, pour essayer d'être synthétique, c'est une forme d'initiation, finalement. Mmh. Ce qui se passe là, c'est une forme d'initiation. C'est un choc dont je ne me remettrai jamais totalement. Moi, je suis un jeune Parisien. Voilà, j'ai habité à Paris. Je me retrouve dans des cuisines avec des personnages incroyables qui parlent une langue que je ne comprends pas vraiment, qui est l'occitan, qui jouent des musiques...
que je ne comprends pas vraiment non plus.
Très brutales, très, très brutales et très hors normes. Et évidemment, la dimension de l'initiation est sans doute une dimension forte dans la collecte, mais bon, c'est pas à vous que je vais apprendre ça.
Jean-François Vraux en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne pour notre plus grand plaisir.
En avant la musique, José Dubreuil.
Alors, comment décide-t-on, après ces rencontres, finalement, de consacrer une vie à la musique? Peut-être que vous ne l'avez pas décidé tout de suite, mais comment devient-on musicien professionnel?
J'ai eu la chance à l'époque d'être dans un temps où c'était possible assez facilement, enfin assez facilement, encore fallait-il le décider, de vivre de la musique. Je rencontre à l'époque une association dont vous avez aussi sans doute dû parler ici, qui s'appelle l'Association des musiciens routiniers, avec lequel je fais beaucoup de choses. Je deviens, par le truchement de cette association qui devient une fédération, je deviens jeune volontaire. En fait, c'est un poste qui était financé par l'État pour baisser les chiffres du chômage, encore comme aujourd'hui. Et donc, j'ai la possibilité de rentrer dans une activité professionnelle liée à la musique assez jeune. Je vis de la musique, j'ai 20 ans, ce qui est formidable. Et donc, avec suffisamment d'activités liées à la musique, des bals, des stages, je commence à faire des stages de violon, je commence à jouer avec différents groupes, etc. Donc, je vis assez vite de la musique. J'ai cette chance formidable d'avoir des parents qui ne comprennent pas pourquoi je veux faire de la musique, pourquoi je veux en faire mon métier, qui me déconseillent d'en faire, mais qui me disent, écoute, tu veux faire de la musique, donc on va t'acheter un tout petit appartement à Belleville, tu vas avoir 50 mètres carrés, tu pourras habiter là, tu n'auras pas de loyer, par contre, il faudra que tu payes tout le reste. Et si tu veux devenir musicien, on te donne cette possibilité, mais ne viens pas nous réclamer d'argent. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir habiter à Paris et d'avoir simplement à me nourrir, à m'éclairer, ce qui me permet d'une certaine façon de commencer sans être trop coincé financièrement.
Les rencontres déterminantes pour continuer ce chemin-là?
Les rencontres déterminantes, c'est très vite le métier, en fait. C'est très vite les gens avec qui je vais jouer. Les gens du Bourdon, on va fonder Café Charbon avec Dominique Paris et Marc-Anthony. Je vais très vite faire des choses avec d'autres milieux, avec les gens de la musique improvisée, les gens du jazz, des gens comme Dominique Pifarelli, par exemple, pour les gens du conte Abby, Patrix, et la compagnie du Cercle. Et puis après, avec la danse, avec le cinéma, voilà, différents milieux qui font qu'à un moment donné, on arrive à avoir des réseaux qui font que les choses avancent.
Alors justement, moi je propose qu'on écoute un extrait de L'Après de l'Avant du trio La Soustraction des Fleurs.
Un homme a tout lu. Et personne ne sait comment il a appris à lire. Un homme a tout lu et personne ne se souvient de lui enfant autrement qu'avec un livre à la main. Un homme a tout lu, journaux, livres, revues, tout ce qui lui tombe sous la main. Et pour pouvoir lire encore et encore, il apprend d'autres langues que la sienne et voyage dans le monde entier. Un jour, alors qu'il est dans une petite bibliothèque du bout du monde, il tombe sur un livre qui raconte en détail sa propre vie. L'histoire d'un homme qui passait sa vie à lire des livres. Au début, il n'y croit pas, mais plus il avance dans sa lecture et plus il constate que chacune de ses journées y est décrite sans une erreur. Dans une chronologie exacte. Alors, lire la fin? Ah non! Non, non, non! Il se donne pour règle de ne lire que ce qui concerne son passé. Dès qu'il a l'impression de lire des choses qui ne sont pas encore advenues, il arrête immédiatement. Le temps passe, et la fin du livre approche. Et pourtant, il ne se sent pas si vieux. Un soir, alors qu'il ne lui reste plus que quelques pages à lire avant la fin, c'est plus fort que lui. Il se précipite sur la dernière page et il lit. Un soir, alors qu'il ne lui reste plus que quelques pages à lire avant la fin, c'est plus fort que lui, il se précipite sur la dernière page et il lit.
L'après de l'avant, c'est le trio La soustraction des fleurs et vous avez entendu Frédéric Aurier au violon, voix, Sylvain Lemaitre, arpe, voix, Jean-François Brault, violon, voix.
En avant la musique sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Je le disais tout à l'heure, Jean-François Brault, qui est notre invité du jour, je le dis pour nos auditeurs qui prendraient l'émission en route. Votre travail d'artiste a beaucoup évolué ces quelques dizaines d'années. Vous êtes passé d'un travail musical proprement dit, où vous avez fait du bal, du concert, etc., à des spectacles plus complets, on va dire, incluant le texte. Et puis, vous êtes passé aussi ces quelques dizaines des dernières années, passé des scènes de musique traditionnelle au, par exemple, Salon Musicorin invité par Patrice Fontanarosa. Comment ça se passe, tout ça?
Pour l'instant, ça se passe bien, plutôt pas trop mal. Vivant de la musique assez jeune, j'ai toujours eu comme objectif de me dire, qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec ces musiques? Voilà, j'ai eu donc cette chance de rencontrer ces musiciens dont on a parlé. Et pour moi, la question, c'était, ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fabrique? Comment ces musiques peuvent être contemporaines et comment elles peuvent s'inscrire dans un paysage culturel aujourd'hui? Et une de mes réponses a été de dire, il faut fabriquer des objets, il faut fabriquer des spectacles, et il faut fabriquer des spectacles pour le plus grand nombre. Donc, je me suis interrogé sur la question du plateau, de la scène. Qu'est-ce qu'on fait sur scène? Est-ce qu'on dit des choses? Est-ce qu'on parle pas? Est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue? Donc, toutes ces questions m'ont amené à fabriquer des objets spectaculaires, concertants, avec notamment ce trio qui s'appelle La soustraction des fleurs, donc avec un violoniste et un zarbiste, où en fait, on réfléchit dans les trois spectacles qu'on a produits à vraiment une écriture dramaturgique, scénographique, musicale, du début à la fin du concert, du spectacle, pour proposer quelque chose qui puisse dépasser le petit cercle, même si c'est un cercle qui va s'agrandissant, le cercle des aficionados de musique traditionnelle, mais qu'on puisse jouer ces musiques un peu partout, ce qui est quand même les musiciens de ma génération, ce à quoi on a aspiré, c'est de sortir ces musiques de l'anonymat, sortir ces musiques d'une espèce de
relégation, en fait.
Bien sûr, qui est toujours les casseroles liées au folklore, liées aux musiques populaires. Voilà, je pense qu'on a une histoire typiquement française par rapport à ça, qui n'est pas l'histoire italienne, qui n'est pas l'histoire anglaise, ni même l'histoire belge. Enfin, il y a quelque chose de typiquement particulier en France par rapport à ces cultures de l'oralité. C'est un vrai combat de dire on va sortir ces cultures de l'oralité, que ce soit le conte, la musique, les dits, enfin toute la culture qu'on connaît. Et...
En quelque sorte, c'est un engagement politique.
Oui, sans doute. C'est sans doute lié à un engagement politique, en tout cas de reconnaissance des cultures populaires. Oui, sans doute. Il ne faut jamais oublier que le début du revival de ces musiques est lié à la question de l'alternative. Défendre ces musiques, c'est aussi défendre une forme d'alternative culturelle. On l'a peut-être aujourd'hui un peu oublié, mais moi je suis très attaché à cette notion. Et en ce sens-là, bien sûr, c'est politique.
Et voilà. Bon, on pourrait parler pendant des heures. Nous n'avons qu'une demi-heure et c'est bien dommage. Vous reviendrez, Jean-François Vroy.
Bien sûr, avec
plaisir. On
ne
se quitte pas tout de suite, mais juste avant, je veux donner quelques dates de l'agenda régional. Il y a un collectif d'étudiants qui organise un bal de 20 à 22 heures le jeudi 7 avril. Ça se passera sous la baleine, autrement dit à la Fac de Lettres et des Sciences Humaines, boulevard Gergovia à Clermont-Ferrand. Le vendredi 8 avril de 19 à 21h à la Licorne à Saint-Germain-Lambron, il y a un apéro-bal avec François Brugnot. Les renseignements, vous pouvez les avoir auprès de la Licorne au 04 63 80 32 64. Et la compagnie des Damoiselles sera le samedi 9 avril à 16h au prieuré à Saint-Hilaire-la-Croix. La compagnie des Damoiselles propose les Lettres du Jardin. C'est des lectures, spectacles musicaux mêlant poésie, musique et gourmandise. C'est avec Estelle Jacques à la vielle à roue électroacoustique et au nickel harpa et Mylène Caro, comédienne. Ce spectacle se déroule dans le cadre du festival Ernest Montpied. La communauté de communes du Césalier et le Centre départemental des musiques et danses traditionnelles du Cantal vous proposent le samedi 9 avril à Marcena, dans le Cantal, une initiation aux danses traditionnelles qui sera suivie d'un bal trad avec le groupe Nachipoy. Et pour finir, ne ratez pas le bal de printemps chez les Braillots le samedi 9 avril à 21h au Gamounet. Ça se passera avec Christian Paché et les différentes formations musicales des Braillots. Et à 19h, comme d'habitude, vous savez, il y a l'apéro et le super repas. Cette fois, c'est la morue braillaude qui sera au menu. Pour réserver, c'est le 04 73 63 36 75. Allez, un petit dernier pour la route, parce que le samedi 9 et le dimanche 10, en même temps que ce bal, se déroule un stage de musique et de chant. Alors n'hésitez pas à vous renseigner. Jean-François, dans votre actualité musicale, est-ce qu'il y a des dates en proximité géographique, évidemment?
On sera le 12 et 13 mai avec la Soustraction des Fleurs, avec notre troisième spectacle qui s'appelle Le Jardin des Jardins.
D'accord.
Voilà, à la Nef à Paris, qui est un très beau lieu, qui est plutôt dédié à la marionnette, mais dans lequel on fera deux concerts le 12 et 13 mai.
Bah, vous reviendrez bientôt ?
Bien sûr.
Bien. Eh ben, moi, je vous remercie parce que c'était vraiment très sympa de passer ce moment avec vous et il a été beaucoup trop court.
Plaisir partagé.